Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro 2021-2022 du podcast Major Prépa. Dans ce numéro avec Dimitri, on va vous donner 5 conseils pour bien commencer l'année. Bah, tout d'abord, bonjour Dimitri.
Bonjour Mehdi, très heureux d'animer ce podcast avec toi du coup pour vous donner quelques précieux conseils afin d'entamer la rentrée de la meilleure des manières possibles tout simplement.
Alors, quels conseils pourrait-on donner déjà peut-être par rapport au lycée? Premier conseil.
Alors oui, effectivement, pour préciser un petit peu ce qu'on va faire, on va vraiment donner 5 points. Évidemment, il y en a peut-être beaucoup d'autres, mais peut-être les 5 points qui nous ont paru les plus importants à avoir en tête quand on rentre en première année en prépa économique et commerciale, que ce soit en voie ECG ou en voie ECT. Et donc, le premier des conseils, effectivement, c'est plus le conseil zéro en quelque sorte, puisque c'est le conseil qui va faire le pont entre l'année terminale et l'année de prépa, c'est d'arriver vraiment hyper clair sur les notions du lycée, en particulier les notions de terminale. C'est vrai en mathématiques, c'est vrai aussi pour les autres matières. Pourquoi ? Parce que on voit, je pense que Mehdi, tu peux faire le même constat que moi, beaucoup d'étudiants qui ont tendance, qui sont surmotivés en fait à la frontière entre la terminale et la prépa et qui veulent absolument prendre de l'avance sur le programme. En réalité, c'est pas forcément un très bon calcul. Le mieux, c'est vraiment d'arriver très 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 clair sur toutes ces notions, parce que tout simplement pourquoi ? La prépa économique et commerciale pour l'ensemble des matières, c'est vraiment le prolongement en fait du lycée et donc c'est les mêmes matières, on va dire. Qui prennent des noms un petit peu différents et en tout cas beaucoup plus poussés. Donc si vous n'arrivez pas avec des acquis solides des notions plus faciles, on va dire, que vous avez pu acquérir en première ou en terminale, ça risque d'être un petit peu compliqué ensuite par la suite. Donc voilà, plutôt que de commettre l'écueil de trop s'avancer et d'essayer de comprendre des notions assez compliquées sans l'aide d'un professeur, mieux vaut arriver vraiment très très clair en mathématiques notamment, je le répète, mais c'est le cas aussi à peu près de toutes les matières. Donc voilà pour ce premier conseil, et du coup je vais laisser Mehdi parler du deuxième conseil qu'on voulait vous donner, à savoir donc faire un planning de travail bien défini et bien précis.
Complètement, en fait le planning pour moi c'est un peu le secret de la réussite. Pourquoi ? Parce que beaucoup de préparationnaires foncent tête baissée. Mon prof de maths m'a donné tel truc à faire, donc je dois le faire et je ne pense qu'à ça. J'ai colle de langue la semaine prochaine, donc je ne vais faire que de l'anglais ce week-end. Ce genre de choses. En fait, souvent, les préparationnaires, entre guillemets, désorganisés, mais besogneux, vont toujours prendre pour échéance le travail du prof. Et ça, c'est un énorme écueil qu'on voit un petit peu partout. On a même été acteur de cet écueil avec Dimitri, je pense,
totalement,
quand on était en prépa. Mais c'est-à-dire qu'on travaillait un petit peu au fur et à mesure des échéances et on oubliait totalement l'importance du fait que ce qu'on bosse, c'est les concours. C'est pas le DS, c'est pas le contrôle, c'est pas l'école, etc. Ce sont que des points de contrôle, de mesure à un moment donné. Et donc, il faut pas faire que travailler en suivant le rythme du tout. Et surtout, je pense que ce qui est le plus important pour le planning de travail, c'est que ça nous force aussi à penser différemment du lycée. Beaucoup d'étudiants bossaient beaucoup au lycée, donc a priori ils auront le premier conseil qui sera bon, c'est-à-dire qu'ils maîtriseront les notions de terminale. Mais au lycée, souvent, alors ça c'est une grosse différence entre ceux qui ont une marge de progression, et ceux qui ne l'ont pas, c'est que souvent au lycée, ceux qui travaillaient beaucoup pouvaient réussir de manière un petit peu désordonnée. Alors qu'en prépa, en fait, on a une marge qui est complètement différente et qui demande de se structurer, de s'organiser d'une manière assez folle, ce qui fait qu'effectivement, dans son planning de travail, on doit le faire. Et ce planning de travail, comment on le fait ? Eh bien, tout simplement en fonction de sa filière, du niveau de maths que vous avez choisi et du fait d'avoir de l'éco ou de la géopo. Déjà, au tout début, vous allez très vite savoir vers quel groupe d'école vous allez ambitionner votre effort. Est-ce que vous allez ambitionner les parisiennes ? Alors, c'est pas forcément dès le premier mois de prépa qu'on le sait, mais on voit assez rapidement, si on arrive à bien se faire au rythme, que effectivement, si on vise peut-être les toutes meilleures écoles, la place des maths dans le planning sera hyper importante. A contrario, pour des étudiants qui voient un petit peu que, bon, a priori, les maths, c'est un petit peu compliqué, les langues, c'est un peu mieux, l'économie ou la géopolitique peut mieux passer, l'éco-droit également. Auquel cas, il faudra aussi savoir équilibrer son planning de travail. Je me souviens vraiment en prépa d'une énorme problématique qui était que j'étais à La Bruyère à Versailles, tout comme Dimitri, et on voyait que beaucoup d'étudiants du milieu de la classe, en fait, passaient peut-être 60-70% de leur temps de travail à faire des maths. Parce que c'était la matière la plus stressante. Aussi, c'est la matière sur laquelle on se dit qu'on a le plus de potentiel de progresser en travaillant bien, c'est vrai. Néanmoins, il y a pour moi cet écueil qui est toujours constant, qui est que les étudiants du milieu de tableau qui visent peut-être plus le top 10 à terme, qui restent de très bonnes écoles, devraient beaucoup plus faire de langue, beaucoup plus de culture générale. Donc pensez vraiment à équilibrer votre horaire de travail en mettant peut-être 40% de quota de maths dans votre planning quotidien. 30% de matières de type histoire enfin histoire, géographie, géopolitique ou SH. Et enfin, 30% que vous, vous faites culture générale et langue, ça me semble être un bon quota pour commencer la prépa. Et après, vous affinerez en fonction de votre progression et de la suite. Mais voilà, il faut vraiment garantir le fait d'avoir un planning de travail qui soit fixe toutes les semaines, qui évolue peut-être juste en fonction du DS le vendredi soir de 2h, si vous avez un DS le samedi, ou peut-être le dimanche soir si vous avez un DS le lundi. Mais vraiment, la constance, c'est la marque des grands, donc restez constant.
Ouais, exactement, je suis tout à fait d'accord, et justement ça fait écho un peu à un autre écueil qu'on voit beaucoup, et ça pas forcément que pour les premières années, aussi pour les deuxièmes années, qui est de travailler entre guillemets à la petite semaine, c'est-à-dire j'ai DS de maths ou de géopolitique samedi, et donc je vais travailler à fond les maths ou la géopolitique pendant toute la semaine, alors qu'en fait vous préparez à une échéance qui est dans 2 ans, enfin dans 18 mois on va dire, un peu plus, et donc ça ne sert strictement à rien en fait, tout simplement de bosser de cette manière-là. Il faut vraiment voir les choses sur le temps long. Et c'est pas forcément facile, ça implique de se détacher un petit peu des notes, et on va y revenir dans le cinquième point. Mais voilà, c'est vrai que se donner cette discipline-là de travail dès le début, c'est vraiment acquérir des très très bons réflexes qui vont vraiment porter, tout simplement, porter leurs fruits, et puis vous permettre d'atteindre les meilleures écoles à l'issue tout simplement de votre prépa. Et une dernière chose aussi, voilà, c'est ce que disait Mehdi, plus l'école est prestigieuse, on parle des parisiennes, donc HEC, SEC, ESCP, les trois écoles les plus difficiles à obtenir, plus le coefficient de maths est élevé, donc c'est vrai que les maths gagnent en importance à mesure que les écoles sont sélectif, voilà, pour être tout à fait précis sur ce point. On peut passer du coup au troisième conseil, un conseil qui est super important, on va vous le donner du coup en deux parties, d'abord le conseil et ensuite comment l'appliquer concrètement. Ce conseil, c'est s'habituer dès maintenant à suivre l'actualité géopolitique et économique pendant toute votre prépa. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est relativement peu important au lycée, alors que ça devient absolument omniprésent dans les DS et aussi dans l'école en prépa, simplement parce que le programme de prépa, si on met de côté évidemment les mathématiques, parce que les formules de maths vont pas changer d'une année à l'autre évidemment, le programme de prépa est énormément ancré dans le réel, que ce soit en géopolitique, en économie, vous allez voir l'histoire récente et contemporaine de la géopolitique, de l'économie justement, en langue pareil, hein, les exemples, les articles de presse qui vont vous servir de support seront ancrés tout simplement dans l'actualité, et donc ça suppose d'être vraiment très très au fait de ce qui se passe en France mais aussi à travers le monde, et ça c'est vraiment quelque chose que beaucoup d'étudiants ont encore un petit peu de mal à appréhender au début en tout cas de l'année, et donc plus vous prenez rapidement ce réflexe-là, et puis ça deviendra naturel pour vous, et plus vous aurez aussi des exemples riches à mettre en avant, puisque en fait, vous allez être interrogé globalement sur les 2 dernières années d'actualité au concours. Donc c'est important d'avoir vraiment tous ces éléments-là en tête. Et du coup, voilà, avec Mehdi, on a préparé une petite sélection, on va dire, des meilleures ressources pour suivre l'actualité. Donc voilà, Mehdi, je te laisse compléter ce point-là.
Ouais, alors on peut parler des sites web, de podcasts, de chaînes YouTube. Alors peut-être pour commencer sur les sites web d'actualité, alors vous allez forcément, si vous faites de la géopolitique, manger du courrier international. Ça fait partie des ressources assez utiles quand on est en prépa. Ça permet de découvrir des articles donc traduits de la presse étrangère vers le français. Vous allez pouvoir avoir des journaux coréens, singapouriens, brésiliens, angolais, américains, bref, tout ce que vous voulez. Vous aurez vraiment un condensé du meilleur de la presse internationale avec courrier international. De même, des médias comme Le Monde sont très utiles. Alors Le Monde, Les Échos, etc., pour vous tenir au courant de l'actualité française, c'est toujours nécessaire. En fonction des langues que vous avez, vous allez être des aficionados, soit des économistes qui est vraiment adoré des profs d'anglais. Alors peut-être à tort, hein, pour le coup, parce que les économistes, on a l'impression vraiment que c'est la bible des profs d'anglais, parce qu'effectivement le niveau de langage est très soutenu. En revanche, quand on pense au col, à l'oral, ou à d'autres, ou au fait de trouver les arguments, des arguments très intéressants, d'autres supports comme le FT, le Wall Street Journal, etc., sont aussi excellents, surtout dans une perspective business. Donc voilà, pour prendre un peu de recul après 6 ans après être sorti de la prépa, ne tombez pas dans le économistisme des profs d'anglais qui est assez latent. Alors pas de tous les profs évidemment, mais de beaucoup de profs, ce sont des points de vue assez complexes, d'une rédaction qui ne signe pas ses points de vue et qui du coup est amené à publier pas mal de bêtises quand on regarde avec un peu de recul ce qui était publié quand j'étais en prépa et ce qu'il en est advenu après. On a souvent une rédaction qui n'est pas forcément très objective et qui ne sent pas forcément bien l'air du temps, donc attention à ne pas tomber dedans, et multiplier donc les supports, hein. Ça c'est vraiment le gros piège, ne faire que lire les économistes parce que votre prof d'anglais vous la recommandez, vraiment éviter, voilà, ouvrez vos points de vue, lisez The Guardian, ou lisez de la presse américaine, lisez plein de choses, et ne tombez pas donc, dans l'unisupport. Mais après, sur les langues, alors j'ai pas fait espagnol, mais bon, pour le coup, El País est une référence pour tous les étudiants qui travaillent l'espagnol, mais voilà, encore, n'hésitez pas à demander à vos profs de vous donner un maximum de sites et de ressources différentes. Pour l'allemand, de même, on va peut-être pas lire Bild, mais on va plutôt lire Die Welt ou Frankfurter Allgemeine Zeitung. Donc, j'ai pas mis le déterminant parce que je m'en souviens absolument plus. Je sais plus si c'est Der ou Das.
Je crois que c'est Der, mais bon.
Mais voilà, on prend pas le risque.
Pas sûr, pas sûr.
Exactement. mais voilà, du coup, on a pas mal de support. Donc voilà, pour les sites web, vous avez à peu près l'essentiel. De toute façon, en description, on vous mettra un lien avec plein d'articles, enfin, avec l'article qui contiendra le hub de ressources, même sur les podcasts. Là, Dimitri, je vais peut-être te laisser enchaîner, mais il y a pas mal de podcasts qui sont utiles pour la géopolitique.
Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est un usage super intéressant en prépa parce que, en prépa, on a plein de petits temps morts, et les temps morts, c'est l'ennemi absolu du prépa où votre temps est toujours chronométré, optimisé. Donc, quand vous êtes sous la douche ou dans les transports en commun, plus simplement, c'est vrai que c'est toujours très utile d'utiliser ces applications de podcast pour écouter ce contenu et ne pas perdre son temps. Et il y a d'excellents podcasts sur différents sujets. Donc, bien sûr, vous pouvez écouter déjà des podcasts en langue anglaise ou en langue espagnole, allemand, en fonction de ce que vous faites. C'est déjà très utile. Du côté géopolitique, économique, il y a aussi pas mal de ressources intéressantes. En culture générale aussi, on peut penser notamment à l'émission d'Adèle Von Rett, Les Chemins de la Philosophie, donc sur France Culture. Du côté de la géopolitique, il y a pas mal de choses intéressantes. Du côté de l'actualité, on peut penser à C'est dans l'air, l'émission de France 5 qui fait par ailleurs aussi des podcasts et qui est parfois pertinente, parfois non. Évidemment, là, il faut sélectionner les bons épisodes. Vous avez l'émission géopolitique de Pierre Aski sur France Inter, qui a l'avantage d'être assez courte. Vous avez également, alors là, c'est peut-être plus précis, mais ça permet parfois de trouver des petites pépites en termes d'exemples. Sur France Culture, les enjeux internationaux également. Donc ça, c'est un programme de 10 minutes tous les jours qui va vous parler d'un fait d'actualité géopolitique très précis. Mais donc, ça, voilà, ça permet de nourrir ses dissertations et d'avoir des choses très précises à mettre sur la copie ou également en colle. Vous avez aussi Géopolitique le débat de Marie-France Chatin sur RFI, il me semble, qui est là une émission un petit peu plus longue de débat. Donc le débat n'est pas toujours le meilleur des formats, mais il y a des épisodes là aussi. Enfin, j'entends le meilleur des formats pour en tirer quelque chose de vraiment intéressant et consistant pour vos dissertations, mais il y a quand même souvent des épisodes très très intéressants et parfois seulement aussi des épisodes avec un seul intervenant, donc voilà, là aussi il faut sélectionner les meilleures ressources, ce qui vous plaît aussi, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. En économie, je sais pas si Mehdi t'en a aussi, le nom m'échappe sur France Culture, l'heure écho il me semble, ou la minute écho, je sais plus, mais en tout cas il y a eu un très bon programme qui est aussi l'équivalent du coup des enjeux internationaux, mais cette fois-ci à l'aune de l'économie. Donc voilà, c'est selon que vous faites de la géopolitique ou de l'ESH, c'est aussi des très très bons podcasts qui peuvent être des ressources assez rares et assez précieuses pour enrichir. Voilà, je sais pas si j'ai été exhaustif, si Mehdi tu veux en rajouter, mais je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses.
Complètement. Alors après, effectivement, si vous voulez avoir un petit peu de... Il y a un podcast aussi qu'on peut suggérer pour ceux qui aiment l'anglais et qui aiment bien avoir des histoires de business assez sympas, c'est Business Wars de Wonder Why. Alors vous l'avez en français sous le titre Guerre de Business. C'est des histoires de grandes batailles de business qui peuvent vous faire des bons arguments d'ailleurs pour vos colles de langue. C'est assez intéressant, ça vous permet de travailler l'anglais, c'est très bien. Enfin, la narration est excellente. Donc c'est le genre de choses qu'on peut conseiller. De même, si vous êtes vraiment des aficionados de l'ESH et de l'actualité, vous pouvez écouter Les Experts, c'est une émission de BFM Business qui est quotidienne. Alors effectivement, on ne l'écoutez pas tous les jours, mais le concepteur du sujet de ESH, ESCP Schema, il intervient assez souvent, Emmanuel Combe, donc, qui est aussi professeur à Schema. Donc on a vraiment ce genre de programme qui peut être intéressant pour le coup. Donc je vous invite vraiment à le consulter. Après, autrement, pour tout le reste, alors on peut passer aux chaînes YouTube. Alors évidemment, sur les podcasts on peut finir évidemment avec celui-là, n'importe pas à recommander,
évidemment.
Et sur YouTube,
abonnez-vous d'ailleurs accessoirement
évidemment, et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute, ça permet au podcast de remonter. Après, en dehors de ça, effectivement, sur YouTube, alors on va commencer évidemment par la chaîne d'Agent Prépa, qui compte plus de 11 000 abonnés à la rentrée et qui va pas tarder à dépasser le million de vues. Pour le coup, c'est assez intéressant parce qu'il y a à la fois des vidéos que vous pouvez consommer à n'importe quel moment pour vous motiver. Voilà, je raconte par exemple dans une vidéo mon parcours En prépa, comment j'intègre HEC. Il y en a une autre où je raconte comment je suis passé de 8 à 20 en première année. J'étais complètement paumé en maths et vous allez donc voir dans cette vidéo, alors on est pile dans le thème, comment j'ai pu prendre le bon pied pour bosser les maths correctement en première année. Donc ça, c'est le genre de contenu que vous allez trouver sur YouTube. Et du contenu un peu plus actuel, on parle du classement CIGEM, on va pas faire des webinaires sur le thème de culture générale de l'année. On a vraiment pas mal de contenu comme ça pour vous épauler à tous les instants. Donc notre chaîne YouTube, elle se veut pas exhaustive évidemment, parce qu'il y a plein d'autres chaînes YouTube qui sont intéressantes, mais elle est assez complète pour un étudiant qui s'initie à la prépa, pour du moins se motiver. Et Dimitri, est-ce que tu as d'autres exemples de chaînes YouTube qui ne sont pas les nôtres?
Il y en a pléthore. Pour appuyer quand même, il faut faire un peu de pub après tout, la chaîne de Majeure Prépa, on va aussi beaucoup enrichir le contenu cette année, donc n'hésitez pas déjà à vous abonner pour avoir aussi les nouveaux contenus qui vont être publiés. Mais effectivement, vous avez déjà une très très bonne base, et notamment pour comprendre la réforme qui rentre en vigueur en fait cette année de la prépa ECG. On a fait beaucoup de contenu avec des professeurs pour vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cette réforme. Donc vous qui rentrez en prépa ECG, vous êtes les premiers à rentrer en prépa ECG, et bravo pour ça. Et bien justement, ça vous permettra peut-être de mieux appréhender justement les matières et ce qui vous attend tout simplement pendant ces 2 ans. Sinon, on peut penser aussi au dessous des cartes. Je pense que c'est une émission que vous connaissez bien, qui passe sur France 5 ou sur Arte, j'ai un doute. Sur Arte, c'est ça, parce que c'était la même chaîne avant la télé, c'est pour ça que j'avais un petit doute. En tout cas, voilà, la
même
chaîne
canal,
YouTube. Le même canal, absolument, oui. Mais ça a changé depuis. Et donc, cette chaîne, justement, donc maintenant sur YouTube, évidemment, elle permet justement de mettre en exergue un peu les grands enjeux internationaux et d'avoir un focus géographique, et c'est très intéressant parce que l'aspect géographique est extrêmement important en dissertation de géopolitique, et donc ça vous permet justement d'avoir des choses beaucoup plus concrètes. On rappelle, si vous le savez pas, que à l'ESCP, donc qui est une des dissertations de géopolitique pour les concours, et on vous demande aussi de faire une carte en plus de la dissertation, donc c'est quand même intéressant d'avoir des éléments spatiaux en tête, et puis par ailleurs il y a quand même beaucoup, même pour ceux qui font de l'ESH, de notions économiques qui sont évoquées dans ces émissions là qui sont relativement courtes et très bien montées, donc très accessibles, très un peu catchy, donc voilà, ça vaut vraiment le coup aussi de dévorer ces épisodes là. Après voilà, on pourrait en penser plein d'autres, en évoquer plein d'autres, pardon, mais c'est peut-être moi en tout cas en géopolitique l'émission que je regardais le plus. Voilà, je pense qu'on a été complet. Je sais pas si t'en as d'autres, évidemment il y en a d'autres,
Oui, voilà, alors c'est déjà un bon moyen de commencer à abonner-vous à ces chaînes là et ce sera suffisant pour être à peu près au taquet. Alors après, des chaînes d'écho de géopolitique, vous en avez plein, Géopolitics, en écho vous tapez, il y a Écorama, enfin il y en a énormément. Je vous invite à regarder une ou deux vidéos de chacune d'elles pour vous faire aussi une idée, mais attention effectivement à ne pas perdre de temps et à ne pas vous retrouver sur des chaînes qui finalement n'ont rien à voir avec le sujet, parce que l'algorithme YouTube est très puissant et peut très vite vous recommander des vidéos qui peuvent être intéressantes mais qui n'ont rien à voir avec le programme. Voilà, on peut très vite tomber sur des chaînes de sport business, etc., qui vont prendre des concepts déjà vus ici, mais qui vont pas forcément être utiles pour la prépa. Donc attention à ne pas perdre de temps non plus. Aussi, autre moyen de ne pas perdre de temps et de passer un bon moment, alors c'est le quatrième conseil, c'est de trouver d'excellents partenaires de travail. Par excellent partenaire de travail, j'entends déjà premièrement le fait de ne pas être seul, parce que travailler seul en prépa, c'est quand même souvent une garantie d'échec, alors peut-être pas forcément scolaire, mais peut-être aussi professionnel plus tard, parce que effectivement, quand on travaille sous la pression de la prépa, en général, quand on bosse à plusieurs, ça marche beaucoup mieux que quand on bosse seul. Probablement parce que la motivation à long terme du fait de bosser à plusieurs est quand même bien plus élevée que celui qui va passer son temps à travailler tout seul. Et de même, ça vous permettra d'apprendre, si on vise un peu plus loin que la prépa, parce que la prépa c'est réussir un concours mais pas que, ça vous permettra aussi de vous mettre à avoir de bonnes habitudes de travailler en groupe, de savoir comment collaborer. Par exemple, vous prenez un problème de maths à plusieurs, c'est hyper intéressant de savoir quels sont les chemins que chacun utilise. Vous allez être parfois plus à l'aise sur des points, et donc vous allez pouvoir donner des conseils à vos camarades et inversement. Et donc c'est vraiment cette capacité à vraiment travailler, à vraiment résoudre des problèmes complexes, ce que vous n'avez pas vu au lycée, ou alors très très rarement, ça deviendra votre quotidien, et donc trouver des bons partenaires de travail c'est hyper important. Alors peut-être, je vais prendre la contre-posée, qu'est-ce qui fait un mauvais partenaire de travail? Souvent c'est la personne qui va, et on le voit assez souvent dans pas mal de prépa, qui va être en mode « Ah, c'est super simple, je vois pas pourquoi tu n'y arrives pas », ou alors la personne qui va ne rien comprendre et vous faire perdre votre temps, et qui dans tous les cas est plutôt déjà démotivé par la prépa. Donc voilà, dans tous les cas vous allez voir qui seront vos camarades, rester ouvert évidemment à tout le monde, mais très vite vous allez devoir trier le bon grain de livret et trouver les bons partenaires de travail, donc ceux qui vous permettront d'être dans l'échange, qui sont toutefois aussi cool, parce que c'est hyper important d'avoir des gens souriants et cool avec soi, de pas avoir le partenaire qui mette sa musique hyper fort dans les oreilles et qui vous empêche de vous concentrer. Aussi, autre exemple de mauvais partenaire, celui qui passe son temps à parler ou à gesticuler partout, ça peut aussi être un vrai handicap. Voilà, si vous êtes à l'internat, c'est un petit peu plus simple, parce qu'en général il y a des espèces de salles communes, ou alors les lycées sont encore ouverts le soir, mais voilà, vraiment prenez l'habitude d'avoir un bon partenaire de travail. Vraiment, c'est comme vous êtes en prépa, c'est comme quand vous êtes des joueurs de tennis pro, vous devez avoir votre sparring partner, et en général voilà, il y a une ou deux personnes avec lesquelles vous allez vraiment bien vous entendre et travailler. Donc voilà, donnez-vous l'objectif de trouver d'ici 2-3 mois votre ou vos sparring partners, et ça va très bien se passer.
Exactement. Et alors après, il faut être clair aussi par rapport à ça. Parfois, c'est bien aussi de travailler tout seul. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des moments aussi de solitude. Mais voilà, c'est assez déconseillé, on va dire, pour le commun des mortels, de travailler toujours seul. C'est souvent pas très finalement pas très efficace in fine. Donc accordez-vous des moments seuls peut-être pour faire du travail de fond, mais notamment voilà, je sais pas, pour apprendre du vocabulaire, ce genre de choses, c'est souvent très utile aussi d'avoir ce genre de sparring partner, comme dirait Mehdi.
Donc, même en maths, de faire des challenges, exactement, de résoudre des exercices le plus vite possible, etc. Même ceux qui aiment bien bosser seul, pour le coup, le côté motivant, challengeant, de se mettre des petites compètes à plusieurs peut aussi être sympa. Donc même si vous aimez travailler seul et que c'est quelque chose que vous appréciez fortement, pour le coup, travailler parfois avec d'autres, ça fait du bien.
Oui, exactement. Et voilà, on est de toute façon toujours dans cette espèce d'émulation en prépa, que ce soit pour l'ensemble de la classe ou au sein d'un petit groupe de travail. Et donc, c'est bien aussi de se maintenir un peu dans ce flow-là. Et justement, on arrive au dernier conseil, à la fin de ce podcast, ne pas se focaliser sur les notes. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui change énormément par rapport à la terminale. Donc, Mehdi, je peux te laisser dérouler ce point-là.
Complètement. Alors ça, c'est quelque chose qui est à répéter et que vous devez garder en tête tout au long de votre prépa. C'est vraiment se focaliser sur les notes et uniquement sur les notes, c'est l'erreur que font beaucoup trop d'étudiants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en prépa, on est doté pendant un concours, que les correcteurs du concours n'auront absolument pas toutes les... J'ai un peu déconné sur absolument. N'auront absolument pas tout votre existant. Et le problème aussi des notes, c'est qu'il y a une science qui est intéressante, qui s'appelle la décimologie, et c'est la science de la notation lors d'un concours, lors d'un examen. Et donc, il y a deux effets qui sont assez majeurs et qui vont avoir lieu au concours et que vous n'aurez pas forcément en prépa. C'est premièrement l'effet de contraste. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes dans votre classe, le niveau est un peu moins hétérogène qu'au concours en théorie. Il y a des classes où vous avez été recruté avec tous plus de 17 de moyenne en terminale. Il y a des classes où il y a des étudiants qui ont 15 de moyenne, d'autres qui ont 12, 11, etc. Et donc une prépa est en général beaucoup plus homogène que lors du concours. Ce qui fait que les notes vont plutôt être mises autour de la moyenne et que les excellents étudiants auront en général plus 11, 12, 13 de moyenne et que les moins bons auront 5, 6, 7 alors qu'au concours sera beaucoup plus éclaté. Donc ça, c'est un premier effet. Et deuxième effet, en fait, c'est le plus intéressant ici, c'est l'effet de halo. Par exemple, vous l'avez peut-être vu au lycée, les profs vont très vite repérer les meilleurs étudiants et à copie égale, l'étudiant qui est connu comme étant très bon aura une meilleure note que celui réputé un petit peu moins bon. Par exemple, si on reprend l'exemple de nous deux, je parle en culture générale, quand j'étais cube et que toi tu étais carré Dimitri, je pense que sur une copie égale avec notre professeur de culture générale, j'avais 14, t'avais 8 pour le coup. Enfin,
c'est difficile de savoir à quel point où situe l'écart, mais oui, clairement, il y a une primauté qui est donnée, et puis même en plus, les cubes sont connus depuis 2 ans, et donc... Et forcément, le prof aussi a une meilleure estime tout simplement des cubes, c'est normal. Et exactement, c'est vrai que c'est un côté parfois un peu frustrant, et forcément, ce qui est frustrant n'est par définition pas bon. Donc ça corrobore ce que tu dis. Ouais.
On a aussi eu le cas, alors on se jugeait entre guillemets victime, mais voilà, d'un étudiant qui en anglais brillait toute l'année et qui au concours au final a eu la 20e note, de la classe, donc ce sont des choses qui arrivent. Et donc se focaliser sur les notes, ça peut être mauvais pour ça. Mais c'est mauvais aussi dans un autre sens. Dans la mesure où se focaliser sur les notes quand on est surtout en première année, ça peut aussi totalement dérythmer votre travail. Le deuxième conseil, c'était de faire son planning de travail. Et ce que vous allez voir à la rentrée, c'est que beaucoup d'étudiants, en se focalisant uniquement sur les notes à l'instant T, vont travailler n'importe comment. Et vous allez voir vraiment, ça va être évident à la rentrée, que si vous avez DS de maths à la fin de la semaine, la plupart des étudiants de votre prépa vont faire que des maths toute la semaine. Si vous avez DS de géopolitique, le volume horaire de géopolitique la semaine qui précède le DS va être le triple de celui normal. Même pour la culture générale, qu'on reprend en général quand on est en deuxième année, qu'on a un thème, on peut ne pas du tout travailler la CG pendant 2-3 semaines et hop, la semaine du DS, on se remet à faire 4-5 heures de CG de plus que ce qu'on devrait faire habituellement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit hyper souvent et qui fait que, pour le coup, on a pas d'étudiants qui n'ont en fait pas compris un principe fondamental de la prépa. C'est que la prépa, c'est pas un décathlon. On n'est pas Kevin Mayer à essayer d'avoir le plus de points sur chaque épreuve pour avoir un score final à la fin. Non, c'est un marathon où, en fait, le résultat, on l'a au bout de 42 km 195 et où, en fait, comme dans un marathon, les 30 premiers kilomètres, c'est facile. On atteint le mur du 30 km et la vraie course se situe du 30e au 42e, voire 43e kilomètre, ouais. Sur rajouter 195 mètres de course. Et c'est vraiment ça la prépa. C'est-à-dire que la première et la deuxième année jusqu'aux révisions de concours, c'est les 30 premiers kilomètres, ça file. Et en fait, la performance ou le ressenti que vous avez à ce moment-là n'est pas hyper important. Ce qui va vraiment compter, c'est ce qui va se passer à la fin. Et donc, c'est les concours. Et donc, c'est en ce segment de 30 à 42 kilomètres où tout se joue. Et il faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que si vous avez des super notes en prépa, ne vous gargarisez pas. Vous pouvez très bien, et on l'a vu, hein, des étudiants qui ont des super notes tout au long de leur prépa, se ramasser et avoir des écoles bien moins bonnes que d'autres étudiants qui les ont battus pendant 2 voire 3 ans et qui, eux, ont bien performé le jour J. Donc vraiment, la focalisation sur les notes, c'est un énorme piège. Alors oui, c'est rassurant d'avoir une bonne note. Oui, c'est rassurant de se dire, de voir qu'on progresse dans une matière, etc. Ça peut être des gages de motivation. Mais à l'inverse, c'est pas parce que vous avez des mauvaises notes toute l'année que vous aurez de mauvaises notes au concours. Je sais pas, Dim, si t'as des exemples même de matière où t'as peut-être jamais eu de bonne note. Je sais pas, peut-être l'allemand pour toi.
C'était quand même l'allemand, j'étais particulièrement nul, mais c'est vrai que j'ai eu un peu mieux au concours. Ouais, c'est ça. À l'inverse, j'avais super bien, j'étais très bon en contraction et j'ai sous-performé au concours, mais enfin, j'ai pas été mal noté, c'est juste que j'ai moins réussi au concours que pendant le reste de l'année. Donc, et en plus, voilà, c'est ça, c'est que une bonne note, ou plutôt plusieurs bonnes notes au cours des 2 ans, ne garantissent pas du tout, malheureusement, une bonne note au concours, parce que bah, il y a une part de chance qui est due au fait que votre forme le jour J sera pas forcément celle que vous aurez escomptée, que le sujet va plus ou moins vous inspirer, que bah oui, effectivement, il y a des effets de sismologie où vous êtes corrigé avec des plus ou moins bons élèves. Et donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, et c'est pour ça qu'il faut pas se focaliser sur ces notes là en permanence, parce que justement, elles ne disent pas toujours exactement ce qui va se passer au concours. Et surtout, comme tu l'as dit, voilà, tu prends l'analogie du marathon, on peut prendre celui du lièvre et de la tortue aussi. C'est vraiment un effort prolongé sur 2 ans. Et c'est pas parce que vous allez vous donner à fond pendant quelques mois et être irrégulier ensuite que ça va bien se passer pour vous. Et une autre chose aussi par rapport à la focalisation sur les notes, il y a les notes relativement aux autres, mais il y a aussi les notes au global. Et il y a un peu cette image d'Épinal que en prépa, on a 6 de moyenne. Déjà, pas forcément vrai, chaque prof note de manière un peu différente, mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que voilà, c'est un concours, et donc ce qui est intéressant avec les notes, c'est de se situer aussi à peu près par rapport à la classe. Et donc finalement, que vous ayez 18 si tout le monde a 19, ou que vous ayez 12 si tout le monde a 11, enfin, c'est ça qui compte finalement. C'est pas la note intrinsèque en tant que telle, c'est véritablement votre position. Et d'ailleurs, vous verrez très rapidement qu'au cours de l'année, on va plus vous demander combien vous êtes dans telle matière, si vous êtes plutôt 5e, 10e ou 30e, que si vous avez eu 12 ou 6 ou 18. Donc voilà, il faut aussi se mettre un peu dans cet état d'esprit de compétition, quoi qu'on en dise. C'est pas vraiment une compétition malsaine, parce que vous êtes plus en compétition avec les autres prépas qu'au sein de votre prépa, mais en tout cas, vous allez vraiment apprendre à vous mesurer par rapport aux autres, et ça, c'est vraiment un propre de la prépa et qui est simplement dû au fait que on se prépare non pas un examen comme le baccalauréat peut l'être, mais on se prépare à un concours, tout simplement.
Évidemment. Et effectivement, dernière remarque qui est hyper importante, c'est effectivement de ne jamais oublier que la concurrence, c'est pas les préparationnaires qui sont à côté de vous, en général, ce sont plutôt des alliés, mais ce sont tous ceux qui sont dans les autres prépas. Donc ça, c'est vraiment un truc à ne jamais oublier quand on en prépare. Donc voilà, c'est tout pour ce premier numéro que vous écoutez si vous êtes en première année. Abonnez-vous donc à cette chaîne de podcast, abonnez-vous à nos canaux YouTube, à nos newsletters, etc. Ça vous permettra vraiment de partir du bon pied, d'avoir accès aux meilleures ressources, et on se retrouve très rapidement pour un prochain numéro du podcast Major Prépa. À très vite.
Merci à tous.